Bonjour à tous, chers auditeurs de 20 minutes d'histoire. Bienvenue dans un nouveau numéro de votre émission, avec à mes côtés Fabien et Antoine, qui vous proposera, en fin d'émission, une de ses chroniques.
Bonjour à tous. Oui, Charles, je vous proposerai tout à l'heure une chronique sur la formation du blason du duché de Bretagne, avec donc la place importante de l'hermine. Chose tout à fait importante pour l'histoire de la Bretagne. Mais nous recevons d'abord un des grands historiens actuels en la personne de Michel Pastoureau. Bonjour Monsieur Pastoureau.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation.
Alors, quelques mots de présentation pour commencer pour nos auditeurs. Michel Pastoureau, donc vous êtes historien, spécialiste de l'histoire des couleurs, des images et des symboles, directeur d'études à l'EHESS et à l'EPHE, et vous êtes aussi président de la Société française d'héraldique et de sigillographie. Je signale entre autres votre traité d'héraldique réédité à maintes reprises, ou encore une histoire du bleu, voire une histoire du cochon, ce cousin mal-aimé dont on reparlera tout à l'heure.
Alors on va passer de suite à l'entretien, en commençant, si vous le voulez bien, Monsieur Pastoureau, par revenir sur votre parcours.
Oui, j'appartiens moi à une famille où il y avait quelques historiens, mais en fait mon goût pour l'histoire, pour l'héraldique, pour le Moyen-Âge est né pour des raisons plus personnelles que familiales, si je puis dire. C'est d'abord Walter Scott avec Ivan Noé, le film, puis le roman dans les années 50 qui m'ont fait préférer les chevaliers aux cow-boys. Et puis après, quand j'étais au lycée, un professeur de dessin, je devais être en quatrième, qui m'a fait découvrir, par le biais d'un vitrail armorié, les joies du blason et de l'héraldique. Et c'est devenu une passion d'adolescent. Les choses ont commencé comme ça pour moi.
Une passion d'adolescent tellement grande que vous en faites même votre thèse à l'école des Chartes sur le bestiaire héraldique médiéval, sujet qui était alors considéré comme presque ingrat par certains historiens.
Oui, j'ai eu du mal, même à l'école des Chartes, à imposer un sujet qui portait sur les armoiries médiévales. L'héraldique semblait, on était à la fin des années 60, l'héraldique semblait une discipline peu sérieuse, voire réactionnaire. Et en plus, parler des animaux, c'était vraiment parler de la petite histoire. L'animal n'avait rien à faire à cette époque sur le devant de la recherche historique. Donc j'ai dû batailler sur deux fronts, l'héraldique d'un côté, le bestiaire de l'autre. Et finalement, grâce à l'appui de quelques professeurs et d'autres, Jacques Le Goff par exemple, ou Georges Duby, j'ai pu imposer d'une part ce sujet de thèse à l'école des Chartes, puis ensuite mes premières recherches qui semblaient un peu bizarres, histoire des armoiries, histoire des animaux, histoire des couleurs. C'était pas dans l'air du temps, mais ça s'est mieux passé dans le courant des années 70, quand les barrières ont commencé à tomber entre les différentes disciplines au sein des sciences humaines, et le contact avec l'ethnologie, l'anthropologie, la linguistique ont fait beaucoup de bien à l'étude des emblèmes, des armoiries. Et puis plus tard, j'ai eu des contacts avec des naturalistes, histoire naturelle pour le bestiaire. Bref, les choses se sont améliorées.
Et finalement, si on revient sur cette passion pour l'héraldique, cette passion adolescente qui s'est transformée en carrière, au fond, pour vous, qu'est-ce que c'est pour nos auditeurs, un blason? Comment on choisit les animaux, le bestiaire, les couleurs, les symboles utilisés dans un blason?
Oui, donc c'est une question que se pose l'historien quand il se penche sur des armoiries médiévales ou modernes, essayer de savoir pourquoi tel personnage, telle famille, telle ville comme Lyon porte telle couleur et telle figure dans ses armoiries. Et si on est honnête, faut avouer que dans 50% des cas, on n'est pas capable de répondre à cette question. Il y a d'autres choix qui peuvent s'expliquer pour des raisons de mode, par exemple. On s'aperçoit que dans une région donnée, à une époque donnée, il y a des couleurs, des combinaisons de couleurs, des figures qui sont plus fréquentes que d'autres. Ce sont des modes plus géographiques d'ailleurs que sociales ou chronologiques. Et il y a des raisons qui ont trait à l'histoire féodale. Ici ou là, tel petit seigneur reprend les armoiries de son suzerain. Il y a des raisons qu'on appelle en héraldique parlantes, hein, quand il y a un jeu de mots entre le nom du possesseur de l'armoirie et puis la figure qu'on trouve dans l'écu. Hein. Je m'appelle, Guillaume Cheval et je mets un cheval dans mes armoiries. Ça, c'est la relation directe. Je m'appelle Pastoureau, qui veut dire petit berger. Je mets un mouton dans mes armoiries. Donc, ça, c'est déjà plus indirect. Et puis, on peut avoir des rébus, etc. Il y a des raisons symboliques, entre guillemets, qui peuvent être liées à des aspirations, des vertus qu'on veut mettre en valeur ou commémorer un fait réel ou légendaire, bref. Mais il faut rester lucide, il y a quand même une bonne partie des raisons qui nous échappent, et c'est très bien comme ça.
Alors, sur la constitution du blason lui-même, quels sont les premiers blasons? On a souvent l'image du blason de Geoffroy Plantagenet. Et je voulais savoir comment les hommes ont eu l'idée de se mettre à dessiner des blasons, ou en tout cas sur leurs boucliers au départ, au XIIe siècle.
Oui, il n'y a pas d'armoirie avant le XIIe siècle. Il faut abandonner l'idée qui traîne dans les manuels et les traités de blason du XIXe et même encore du XXe siècle, selon laquelle les armoiries sont venues d'Orient, adoptées par les croisés à l'époque de la première ou de la deuxième croisade, avec un emprunt soit aux Byzantins, soit aux musulmans. Tout cela ne résiste pas à l'étude des documents. Non, les armoiries sont nées en Occident, parce qu'en Occident étaient réunies les causes de leur apparition. Il y a des causes matérielles. L'équipement militaire devient complexe à la fin du XIe, au début du XIIe siècle. Le combattant devient presque méconnaissable sur les champs de bataille et sur les champs de tournoi. Le haubert recouvre le corps, le casque recouvre les joues, parfois les yeux. Donc on ne sait plus qui est qui. On ne sait plus reconnaître l'ami de l'ennemi. Donc on va chercher des signes pour se reconnaître dans la mêlée. Et ces signes vont être les figures que l'on va peindre en couleur sur la surface extérieure du bouclier. Ça se fait pas tout d'un coup, ça se fait en 2-3 générations. Et on peut parler d'armoirie à partir d'un moment où un même personnage, pendant une durée assez longue de sa vie, utilise les mêmes figures et les mêmes couleurs pour se faire reconnaître. Et au moment aussi où quelques règles interviennent pour représenter ces armoiries. Ça se situe vers le milieu du XIIe siècle. Mais il faut ajouter qu'on est dans une période, et c'est peut-être plus important, où la société occidentale est en train de se réorganiser. Les groupes, les sous-groupes, tout ça, ça change. On a parlé même d'encellulement pour cette période 11e, 12e siècle. Et ces groupes et ces sous-groupes sont à la recherche d'étiquettes, de signes d'identité. On est dans une grande phase de développement de l'identité et des signes d'identité. Et la naissance des armoiries participe de ce grand mouvement qui voit aussi se diffuser ce qu'on appelle le deuxième nom, c'est-à-dire le nom de famille, le nom patronymique, qui voit se diffuser dans les images les attributs iconographiques. Désormais, il faut vraiment savoir à qui on a affaire, qui est qui. C'est à cette époque aussi que le vêtement se transforme, les accessoires du vêtement, les insignes. Bref, il y a un mouvement général dans lequel s'inscrit cette naissance des armoiries.
Bien. Et on va en venir maintenant, si vous le voulez bien, à une chose qu'on peut mettre sur l'armoirie que vous avez étudiée en détail. Le cochon, cousin mal-aimé, vous écrivez dans votre titre, et j'ai envie de dire que tout est dit. C'est un des animaux les plus proches de l'homme, mais qui en même temps, aujourd'hui, nous semble assez délaissé par l'humain. Pouvez-vous revenir en quelques mots sur l'évolution de la figure de cet animal depuis le Moyen-Âge ?
Oui, donc ma thèse sur le bestiaire a fait de moi aussi un historien des animaux et du savoir zoologique et des rapports entre l'homme et l'animal. Et je me suis intéressé à quelques animaux plutôt réprouvés, parce que les documents sont plus bavards sur les réprouvés que sur les admirés. Donc j'ai travaillé sur l'ours pendant très longtemps, sur le cochon donc, et je suis maintenant dans le corbeau.
Oui.
Et le cochon, c'est, pour l'historien, c'est une vedette, parce que son histoire touche à toutes sortes de problèmes. Élevage, alimentation, vie quotidienne, histoire économique, structure de la vie rurale, fréquentation de la forêt, restriction des droits de la forêt, etc. Mais aussi à des problèmes plus symboliques, attrait, rejet, tabou, interdit sur le porc dans certaines cultures, interdit biblique, et au contraire, vénération, admiration dans des populations anciennes comme les Slaves, les Celtes, les Germains. Bref, il y a un bon et un mauvais porc, il y a une histoire de longue durée et beaucoup, beaucoup, beaucoup de documents qui nous parlent des cochons, textes et images, mais aussi archéozoologie, tradition orale. Pour l'historien, il y a énormément à dire, il faut canaliser toute cette information. Donc peu à peu, j'ai essayé de construire une histoire au moins culturelle du porc dans les sociétés européennes, depuis cet attrait, cette vénération, même dans les sociétés anciennes, aussi bien pour le porc sauvage que pour le porc domestique, puis au contraire, dévalorisation avec le christianisme, la Bible d'abord, les pères de l'Église ensuite. Le christianisme n'aime pas le porc et met sur son dos beaucoup de vices.
Est-ce qu'il a amené sur terre en permanence, entre autres, c'est ça ?
Voilà, le porc est sale, bien sûr. Il est, il regarde jamais vers le ciel, mais toujours vers le sol. Il mange à peu près n'importe quoi. Il est goinfre. Non, il est de la tribu de la gourmandise, de la colère. Tardivement, il devient un tribu de la luxure parce que le chien, qui dans les traditions européennes est mal aimé dans les sociétés anciennes et attribue lui aussi de nombreux vices, et symbole de luxure, hein, et tout ce qui a à voir avec la sexualité, c'est plutôt le chien que le cochon pendant longtemps. Mais comme le chien se revalorise tout au long du Moyen-Âge, il faut le débarrasser de ses mauvais aspects. Le pauvre cochon, qui déjà n'était pas bien en point, reçoit, à partir de la fin du Moyen-Âge au début de l'époque moderne, en plus de tout le reste, la luxure. Le cochon qui, si je puis dire, n'avait pas fait de cochonnerie pendant quelques siècles, désormais est attribué de toutes les cochoncetés qu'on peut imaginer, alors qu'avant, c'était le chien qui remplissait ce rôle. Mais il s'est bien vengé, ce cochon, parce que la médecine ancienne le sait déjà, mais la médecine contemporaine le confirme, c'est, avec les grands singes, l'animal le plus proche de l'homme biologiquement. Pour ça que la médecine contemporaine emprunte tant et tant de produits au porc. Grève de peau, grève d'organes, système urinaire, système cutané sont absolument identiques. Les truies peuvent même être mères porteuses d'embryons humains pendant quelques heures, etc. Donc il y a une espèce de cousinage biologique entre l'homme et le porc qui explique très certainement les tabous, les rejets, manger de la viande de porc, ça peut être cannibale. Bref, c'est un dossier absolument passionnant.
Mais si on poursuit justement dans cet anthropomorphisme, il y a une anecdote particulière qu'on voulait évoquer parce qu'elle est vraiment exceptionnelle, c'est le procès de la truie de falaise de 1386. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots cet événement
Voilà, oui. M'intéresser au porc m'a conduit à m'intéresser aux procès faits aux animaux entre le XIIIe et le XVIIe siècle. Et dans ces procès, qui sont de nature assez différente, mais la vedette, c'est le cochon, c'est lui qui est le plus fréquemment conduit en tribunal, pour différentes raisons. Mais les porcs sont vagabonds, aussi bien en ville qu'à la campagne, occasionnent des accidents. On a l'idée qu'ils peuvent comprendre ce qu'est le bien et le mal, et donc qu'on peut les juger, d'où un certain nombre de procès. Et cette affaire de la truie de falaise, on est à la fin du XIVe siècle en Normandie, est la mieux documentée dans les procès médiévaux qui nous sont parvenus. C'est une truie qui a à moitié dévoré un jeune enfant au berceau qu'elle avait renversé et qui était mort en tombant. Elle a commencé à le dévorer. Et donc elle est capturée. Un procès un peu spectaculaire est organisé. On connaît beaucoup de choses grâce aux dépenses qui ont été faites pour surveiller la truie dans sa prison, la nourrir pendant 9 jours, payer le bourreau qu'il a exécuté, lui offrir une paire de gants neufs. Et je me souviens que un document dit « ce dont il se dit bien content ». On connaît le nom du propriétaire de la truie, du père de l'enfant qui est mort. Il s'appelait Jean Lemot, ce pauvre, il avait 2 ans. Il n'était pas surveillé. La truie donc a été condamnée à mort, mais pour aggraver son cas, on l'a d'abord traînée rituellement dans les rues de Falaise, petite ville de Basse-Normandie. Puis on a installé un échafaud et elle a d'abord été pendue, puis brûlée sur place publique. Et le plus extraordinaire dans cette affaire, c'est que d'une part, le juge Bailly en Normandie, qui représente la justice royale, a demandé à ce que la truie soit vêtue avec des habits d'homme avant d'être pendue, qu'elle soit mutilée aux mêmes endroits où elle-même avait mutilé l'enfant, et que les paysans vivant alentour assistent au spectacle de l'exécution de la truie avec leur cochon pour que cela leur fasse enseignement. Hein. Donc on a une idée qu'ils vont tirer une leçon morale de ce qu'ils auront vu, qu'ils sont capables de comprendre le bien, le mal. Le juge a également ordonné qu'une grande peinture soit faite dans l'église de la Trinité de Falaise. Et cette peinture, commémorant l'événement, se voyait encore au début du XIXe siècle. Et puis elle a disparu. Mais on a quelques gravures d'Ancien Régime qui nous en ont conservé des images un peu transformées au fil du temps. Donc c'est une affaire extraordinaire du point de vue de l'anthropologie historique qui met en scène, au fond, la proximité entre l'homme et le porc d'une manière spectaculaire.
Et pour revenir sur cet aspect moral, donc vous avez écrit également un livre sur la rayure comme l'étoffe du diable. Et on aurait voulu savoir ce que vous pensiez actuellement du nouveau maillot qui a fait débat de l'équipe de France à l'extérieur, qui est un retour finalement à un maillot rayé.
Oui, pour moi, historien des couleurs, les terrains de sport sont des champs d'observation extrêmement fructueux. Donc, je m'intéresse beaucoup à l'histoire du sport. Et je regrette qu'il n'y ait pas une plus large place qui soit faite au sport dans le monde de la recherche universitaire, même si les choses s'améliorent au fil des décennies. Quand j'étais étudiant, c'était complètement tabou. Mais donc, il y a beaucoup à tirer pour l'histoire des couleurs et bien d'autres choses encore. Dans les premiers temps du sport de compétition, disons, dans la seconde moitié du 19e siècle, la rayure est omniprésente sur tous les terrains de sport et elle est presque héraldique parce que souvent, pas toujours, mais souvent à l'origine des compétitions sportives, il y a des écoles, des collèges, des universités, notamment les collèges britanniques, peut-être encore plus écossais qu'anglais, qui ont créé presque toutes les règles de sport. Et donc cette rayure est très présente, puis elle se fait moins grande après la Première Guerre mondiale. On préfère l'uni ou le bichrome, mais sous forme d'autres maillots que rayés. Alors le maillot rayé, il a différentes fonctions. D'abord se voir, on voit mieux la rayure que l'uni. Ça bouge, c'est cinétique, c'est dynamique. Un sportif, ça doit bouger. Donc en maillot rayé, on va plus vite qu'en maillot uni. Et puis elle est emblématique, elle est héraldique, elle renvoie à un club, elle renvoie à un collège ou université, éventuellement récemment, plus récemment un sponsor. Bref. Mais cela dit, la rayure qu'on a choisie pour l'équipe de France de football reste tout récemment. Ça ne me semble pas une bonne idée parce que sans mythologie, il n'y a pas de sport. Le sport, ça doit avoir des horizons mythologiques, des traditions. Et changer un maillot, c'est jamais bon signe. C'est presque souvent suicidaire pour une équipe de club ou pour une équipe nationale. Donc je suis assez partisan du maillot traditionnel. Mais évidemment, le marketing, la publicité, les sponsors, etc. voudraient qu'on change tout le temps. Le sport n'est plus tout à fait le sport aujourd'hui.
Parce que là, c'est même pas des rayures comme on avait l'habitude d'en trouver sur les terrains de football. Ça fait très, très marin quand même, rayure, c'est très marinière le nouveau...
Oui, bien sûr, ça fait marinière, le maillot très près du corps, oui. Avec une coupe qui n'a rien de footballistique. c'est intéressant d'ailleurs de voir au fil des décennies, pour tous les sports d'ailleurs, les maillots très très larges et flottants, puis qui se rétrécissent près du corps. Dans les années 70, on a vu des choses abominables, puis ça s'écarte de nouveau. En basket, ça prend des dimensions absolument insensées. On a l'impression que les joueurs tiendraient à trois dans leur équipement. Et puis après, ça serait dit. Tout ça est passionnant à étudier. Forme, couleur, emblème, rapport avec la société, bien sûr. Quand j'étais adolescent, être vu en tenue de sport hors des terrains de sport, c'était particulièrement infamant et ridicule même. Aujourd'hui, au contraire, c'est un must. Le vêtement civil s'est emparé du vêtement sportif. Donc, dans mon travail d'historien, je suis très, très attentif à tous ces problèmes.
On voit donc la couleur ouvre en permanence sur la société et on a envie de dire qu'elle ne vaut que parce que la société met dedans. Par exemple, dans votre histoire du noir, vous parlez, pour une nouvelle fois exemplifier pour nos auditeurs, du conflit entre bénédictins et cisterciens, ceux qui sont en noir, ceux qui sont en blanc. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu les querelles idéologiques qui se cachent derrière les querelles de couleur justement entre ces deux moines ?
Voilà, oui, on est dans le milieu monastique, on est au XIe et au XIIe siècle. Les moines bénédictins sont vêtus de noir depuis l'époque carolingienne à peu près, pour des raisons d'humilité, de modestie, de tempérance. C'est une couleur qui se veut non pas mortifère, mais neutre, qui cherche à ne pas se faire remarquer, d'autant que comme teindre en noir, c'est un exercice difficile. Ces noirs ne sont jamais complètement noirs. Mais quand, au XIe et au XIIe siècle, des moines font sécession et veulent se séparer ou se réformer par rapport à l'ordre bénédictin, et spécialement la branche clunisienne de l'ordre bénédictin, ils font exprès de choisir une autre couleur, et notamment le blanc, c'est les cisterciens par exemple, pour bien montrer qu'ils font séparation, ils font sécession. Et donc j'ai étudié un peu attentivement dans les détails de l'affaire, dans la première moitié du XIIe siècle, la querelle entre moines de Cluny, bénédictins, et moines de Citeaux, donc cisterciens. Et il y a un conflit entre moines noirs, bénédictins, et moines blancs, cisterciens, des échanges de lettres entre deux très grands abbés, Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, et Saint Bernard, abbé de Clairvaux. et ils s'invectivent. Chacun reproche à l'autre sa couleur. Saint Bernard dit, mais vous, bénédictin, vous êtes en noir, couleur de mort, couleur de l'enfer. Et Pierre le Vénérable répond, mais non, c'est la couleur de l'humilité, de la dignité du moine. Mais vous, cistercien, vous êtes en blanc, mais quel orgueil d'être dans le blanc de la fête, de la gloire, de la résurrection du Christ. Saint Bernard lui répond, mais non, c'est le blanc de la pureté de notre vie monastique. Et pour l'historien des couleurs, il y a là un dossier qui est tout à fait passionnant. L'habit fait le moine, au fond, contrairement à ce qu'a dit le proverbe. Et au fur et à mesure de l'évolution du monde monastique et religieux, les couleurs de l'habit seront toujours un enjeu important et signifiant.
Et d'un point de vue des mots, c'est-à-dire par ça qu'on les nomme souvent au Moyen-Âge, les moines noirs. Et les moines blancs,
puisque
ils sont tous bénédictins, pas pour les cisterciens. Pardon.
Et ils vivent sous la règle de Saint-Benoît. Et plus tard, quand on aura les ordres mendiants, les franciscains, par exemple, refusent par humilité et pauvreté de teindre leur robe, donc elle est en laine naturelle non teinte et parfois non lavée, rapiécée. Ils refusent la teinture et la couleur, mais malgré eux, les laïcs qui les regardent les appellent les frères gris, parce que cette espèce de saleté non teinte, pour les laïcs, c'est du gris. Et Saint François lui-même est parfois appelé Saint Gris. Il y a un juron ventre Saint Gris qu'aime beaucoup Henri IV, qui est une espèce d'obscénité qui fait allusion à Saint François.
Qu'on retrouve d'ailleurs avec l'éminence grise de Richelieu, si je me trompe.
Voilà, oui, tout à fait. J'ai oublié son nom, le Père Joseph. Voilà, et d'où l'expression éminence grise, parce qu'il avait un habit gris, petit gris, une branche de l'ordre.
Donc l'importance des couleurs dans toute votre réflexion sur les sociétés depuis le Moyen-Âge finalement jusqu'à nos jours. Et pour mener cette réflexion, sur quel support vous êtes-vous appuyé en dehors donc des habits là, qu'on a pu évoquer? Est-ce que vous êtes appuyé sur des tableaux par exemple, sur différentes manifestations artistiques qui mettent en scène la couleur?
Oui, moi je suis de ces historiens qui pensent qu'on ne peut pas, ne doit pas être spécialiste d'une seule catégorie de documents. On a la chance, nous autres médiévistes, d'avoir ni trop ni trop peu de documents. Nos amis antiquisants n'en ont pas assez, d'où la place à beaucoup d'hypothèses, parfois fragiles. Et nos amis modernistes en ont trop, donc sont obligés de se spécialiser. Nous, médiévistes, on peut être à l'aise sur plusieurs terrains, mais évidemment, garder à chaque terrain documentaire ses spécificités. Donc moi, j'ai pris l'habitude, c'est l'héraldique peut-être qui m'y a habitué, à travailler à la fois sur des textes et sur des images, et essayer de croiser des informations qui viennent de différentes catégories documentaires. Donc pour les couleurs, je m'intéresse à beaucoup de choses. D'abord le lexique. Je conseille toujours à mes étudiants de partir de l'histoire des mots et des faits de langue qui apprennent beaucoup de choses à l'historien. Donc le vocabulaire, les pratiques de la langue, les expressions, les proverbes, etc. Mais aussi la matérialité de la couleur, donc les pigments, les colorants, les teintures, et au-delà donc le vêtement et le système vestimentaire. Le vêtement, c'est le premier support de la couleur de la vie en société. Mais aussi toutes sortes de textes techniques, réglementaires, littéraires, narratifs, et puis les images et la place de la couleur dans les images. Et c'est là où, jeune chercheur, je me suis rendu compte que l'histoire de l'art ne s'intéressait absolument pas à la couleur, même l'histoire de la peinture. On pratiquait une histoire de la peinture à partir de photographies en noir et blanc pendant des générations et des générations. On avait un peu oublié les problèmes de la couleur. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, j'ai des collègues ou même des amis historiens de la peinture du XVIIe siècle, par exemple, qui préfèrent travailler sur des photos en noir et blanc pour étudier l'œuvre d'un peintre, avec l'idée que la couleur, finalement, ça gêne le regard, ça triche, ça trompe, pas très important. Or, pour moi, c'est absolument essentiel. La peinture, c'est d'abord de la couleur. Donc, documentairement, j'aime bien croiser toutes sortes d'informations pour cerner, par exemple, comme je l'ai fait pour le bleu, pour le noir, en ce moment je suis dans le vert, un peu ce que peut représenter une couleur pour une société donnée à une époque donnée, croiser toutes sortes de catégories de documents. Évidemment, on ne peut pas parler d'une couleur toute seule, elle ne prend du sens que pour autant qu'elle est associée ou opposée à d'autres couleurs, mais quand même, en croisant comme cela toutes sortes de documents, en évitant tout ce qui peut être hermétique, ésotérique ou anachronique, surtout projeté dans le passé des savoirs d'aujourd'hui ou des sensibilités d'aujourd'hui. Évidemment, l'historien doit s'en méfier énormément, mais on arrive quand même à construire au moins une histoire sociale des couleurs. Une histoire esthétique, c'est plus compliqué.
Et est-ce que vous pensez pouvoir reprocher à l'histoire de la sculpture, par exemple, puisqu'on a toujours l'image des statues, finalement, comme des marbres blancs, alors que souvent elles étaient peintes, le reproche que vous adressiez avant à l'histoire de la peinture?
Oui, d'autant qu'à l'école des Chartes, juste avant moi, mes camarades de promotion précédente ont eu comme professeur d'histoire de l'art médiéval un grand spécialiste de la sculpture médiévale qui écrivait des manuels. Et pour les photos de ces manuels, il voulait photographier que des moulages parce que sur les sculptures, il y avait parfois des restes de polychromie et il trouvait que vraiment, c'était pas bien. Et pendant des générations, on a nié le fait que les églises romanes et gothiques étaient toutes peintes, non seulement la sculpture, mais l'architecture, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est la même chose d'ailleurs avec l'Antiquité. Un dossier très amusant, c'est à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, deux jeunes architectes qui vont en Grèce sur le terrain, qui voient des temples grecs en ruine et qui voient de la polychromie partout. Et alors ils envoient des lettres ou des rapports aux grands savants qui sont restés dans les académies à Berlin, à Londres, à Paris. Et ces grands savants ne les croient pas. C'est pas possible que les temples grecs aient été entièrement polychromes. Mais pendant 30-40 ans, on a refusé de croire. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui encore, même si on accepte l'idée que tant pour l'Antiquité que pour le Moyen-Âge, la polychromie est omniprésente, on en accepte l'idée, mais au fond, on n'y croit pas vraiment. Et on manque de travaux très importants et ambitieux sur ces questions. On a des travaux de restaurateurs, on a des études, des traces de polychromie qui restent, bien sûr, mais il faudrait penser un peu plus largement et de manière plus ambitieuse pour cerner la place de la couleur dans les temples antiques et dans les églises du Moyen-Âge.